Chapitre 4. Cette lettre de Marguerite fit le plus grand bien au pays. Je me rappelle l'avoir lue peut-être plus de 100 fois. Car non seulement ceux des baraques, mais encore les rouliers, les marchands de grains, enfin tous les étrangers qui s'arrêtaient aux Trois Pigeons après nous avoir souhaité le bonjour et demandé leur chopine de vin se mettaient à crier. « Ah, ça, maître Jean, vous avez reçu des nouvelles de Paris, à ce qu'on raconte. Nous ne serions pas fâchés, non plus de savoir ce qui se passe là-bas. » Et tout de suite, maître Jean me disait « Michel, va chercher la lettre. » Je prenais la lettre dans l'armoire, je la lisais d'un bout à l'autre, au milieu d'un cercle de gens qui m'écoutaient, la hotte au dos ou le fouet sur l'épaule. On s'étonnait, on se faisait expliquer les choses difficiles à comprendre. Maître Jean s'étendait en long et en large sur chaque chapitre, touchant les clubs, les marchés et même les théâtres qu'il n'avait jamais vus, mais qu'il se figurait d'après son bon sens naturel. Finalement, après s'être bien étonné, chacun s'en retournait à ses affaires en s'écriant « Allons, pourvu que les patriotes tiennent ferme à Paris et qu'ils aient toujours le dessus, c'est le principal. » Le monde avait bien besoin d'être encouragé, car c'est en ce temps que les nobles, les anciens justiciers, les évêques, qui ne pouvaient plus soutenir leurs injustices à l'Assemblée nationale parce que les députés du tiers leur prouvaient clairement qu'ils avaient tort de vouloir toujours vivre aux dépens de la nation, songèrent à redevenir nos maîtres par la force. Mais ils ne voulaient pas se battre même, c'était trop dangereux. Ils voulaient nous faire battre les uns contre les autres, et si cela ne suffisait pas, appeler les Allemands à leur secours. Les nobles venaient déjà de frapper le premier coup à Nancy, en opposant la garde nationale à la troupe. Maintenant, les évêques allaient en frapper un deuxième, bien autrement dangereux, en opposant les gens religieux, amateurs de la vie éternelle, aux patriotes amateurs des biens de la terre. Après avoir regagné les biens de la terre, les gens religieux devaient les rendre aux évêques et se contenter de leur bénédiction. Voilà le fond de l'histoire. Vous allez reconnaître cela vous-même. Sur la fin du mois de novembre 1790, quelques jours avant les neiges, on fut bien étonné de revoir au pays des personnes que l'on croyait émigrées. Le père Gaspard de Falsbourg, le grand écolâtre Ross, et bien d'autres qu'on disait à Trèves depuis 6 mois. En même temps, les curés, nommés par les seigneurs et les évêques, allaient et venaient sur toutes les routes. Ils avaient des réunions à Neuviller, à Henridorf, à Saverne, etc. Qu'est-ce que cela voulait dire ? Quelque chose se passait, on ne savait pas quoi, mais les patriotes et principalement les acquéreurs de biens du clergé s'en inquiétaient beaucoup. On se disait « Ces gens-là reviennent de l'émigration, c'est dangereux ». Et tout à coup, la nouvelle se répandit par les gazettes qu'après de grandes batailles à l'Assemblée nationale, nos députés venaient de décréter que les prêtres prêteraient serment à la Constitution. Voici comment ces choses étaient arrivées. Les évêques, qui n'osaient plus réclamer contre la vente des biens ecclésiastiques, parce qu'on aurait vu clairement qu'ils ne songeaient qu'aux richesses de ce monde, avaient changé de batterie, en demandant que l'Assemblée reconnût la religion catholique, apostolique et romaine comme la religion de la France. Cela revenait à dire que nous avions 2 rois, celui des corps à Paris, celui des âmes à Rome. Mais l'Assemblée avait refusé, disant que les âmes n'ont pas d'autre roi que Dieu, qui voit tout, qui sait tout, et qui n'a pas besoin de quelqu'un pour gouverner les âmes à sa place. Alors ces malheureux avaient commis de si grandes insolences que, pour les mettre à la raison, nos députés avaient décrété qu'à l'avenir, les évêques et les curés seraient nommés par la nation comme dans les temps des premiers apôtres. Naturellement, les évêques s'étaient de plus en plus indignés. Le cardinal de Rouen, l'archevêque de Trèves et quantité d'autres dignitaires de l'Église avaient protesté contre le décret, en continuant de nommer leur curé. Et c'est alors que le père gardien Gaspard de Falsbourg, le père Barnabé de Haguenau, le père Janvier de Molsheim, le père Tibère de Schlettstadt, le grand écolâtre Ross, l'archiprêtre Holzer d'Andelot, Meuret, le recteur de Benfeld, Enfin, des centaines de moines étaient revenus de Trèves, de Koblenz, de Constance, et que l'inondation des petits livres avait recommencé tellement qu'on aurait cru que les apocalypses, les lanternes magiques nationales, les passions de Louis XVI, les réflexions de M. Burke sur la Révolution française, tombaient des arbres comme les feuilles mortes en automne. Tous ces mauvais petits livres disaient qu'il fallait refuser les impôts, que nous étions gouvernés par des juifs et des protestants, qu'il valait mieux obéir à un roi borné qu'à 1200 brigands, que les droits de l'homme étaient une véritable farce, que les assignats allaient descendre à 2 liards, enfin, tout ce qu'il était possible d'inventer pour désoler le pays. En même temps, les massacres recommençaient dans le Midi, de sorte que l'Assemblée nationale, voyant que la France risquait d'être bouleversée de fond en comble si l'on ne prenait pas de nouvelles mesures, avait décrété que les curés et les évêques prêteraient serment à la Constitution, pensant les forcer ainsi de remplir enfin leur devoir au lieu d'allumer la guerre civile chez nous. Mais c'est alors qu'il fallut entendre crier les femmes. C'est alors qu'il fallut reconnaître combien les gens étaient arriérés dans nos villages. Je vois encore le père Bénédicte arriver le matin aux baraques avec son âme en gémissant comme si tout avait été perdu et criant « Oui, maintenant, on voit dans quel abîme nous sommes tombés. On nous a tout pris, on nous a pillé nos biens. Les biens des pauvres déposés depuis le commencement des siècles entre les mains de notre Sainte Église. Nous avons tout souffert. Nous n'avons pas réclamé. Nous nous sommes seulement signés. Mais à cette heure, c'est notre âme qu'on veut nous prendre. Notre âme !» Et il sanglotait en répétant « Notre âme !» Dame Catherine, la mère Létumier, toutes les voisines accouraient, levaient les mains et gémissaient avec lui pour le consoler. Ce même jour, le grand écolâtre, le père Janvier et d'autres capucins passèrent aux baraques en faisant les mêmes simagrées. Valentin en était dans la désolation. Il criait que le roi n'approuverait jamais ce serment et qu'une légion d'anges descendrait du ciel pour empêcher les mauvais prêtres de le prêter. Tous les villages aux environs, Mittelbronn, Quatrevent, Bichelberg, pensaient comme lui, sans savoir pourquoi, mais parce que les capucins l'avaient dit. Maître Jean lui-même paraissait abattu. Ses grosses joues pendaient, et comme après dîner, Dame Catherine venait de sortir, le tablier sur les yeux, il me regarda tout pâle en me demandant « Toi, Michel, qu'est-ce que tu penses de tout cela ?» Alors je lui répondis « Tout cela, maître Jean, c'est pour faire peur aux acquéreurs de biens du clergé. Ces moines ne sont pas les véritables prêtres. Pendant que nos pauvres curés de village remplissaient tous les devoirs de la religion, qu'ils couraient la montagne, été comme hiver, dans la pluie et sous le soleil pour consoler les misérables abandonnés et sacrifiés, volés et dépouillés par l'avarice des seigneurs, et qu'ils n'avaient que la petite dîme sur les blés qui ne rapportait presque rien dans nos pays, de seigle. Ces feignants de moines vivaient grassement. Ils donnaient le spectacle honteux de leur ivrognerie, de leur paresse et de leurs mauvaises mœurs. Ils nageaient dans tous les biens de la terre. Et maintenant que par la vente de ces biens, le plus pauvre vicaire a 700 livres et le moindre curé 1200, il serait bien bête de se sacrifier pour ces moines qui les regardaient de travers, ou pour ces évêques qui les traitaient avec mépris en les appelant de la prêtraille, et qui, lorsqu'un d'eux devenait par hasard évêque, disait que c'était d'un évêché de laquais. Je suis sûr que les curés de bon sens et de courage prêteront le serment, et que si plusieurs le refusent, ce sera par la peur de ces êtres orgueilleux qui ne pardonnent rien, et non par conscience, et parce qu'ils croiront de voir moins à leur pays qu'à ces hommes égoïstes. » Maître Jean m'écoutait avec plaisir, et me posant la main sur l'épaule, il s'écria « Michel, ce que tu dis est vrai. Malheureusement, le peuple, et surtout les femmes, sont élevés dans l'ignorance. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de nous réunir aux patriotes et d'attendre que les moines attaquent la Constitution pour la défendre. » Dans le même moment, Dame Catherine rentrait. Aussitôt, il lui dit « Écoute, Catherine, si tu m'ennuies en faisant cette figure désolée, j'irai rendre au Tiercelin mes terres de Piqueholz, que j'ai payées en beaux deniers comptant. Alors nous serons ruinés. Le père Bénédicte et tous les gueux riront. Et tu verras si les Tiercelins, les évêques, les seigneurs ou le roi nous rendront mon argent. qui vient de servir à payer les dettes qu'ils avaient faites sans nous et malgré nous. » Il était en colère, et sa femme se dépêcha de rentrer dans la cuisine, parce qu'elle n'avait rien de bon à lui répondre. Ce qui se passait aux Trois Pigeons se passait dans chaque ménage. Le trouble était partout, et même avant de retourner le soir à notre baraque, je savais d'avance que ma mère allait m'entreprendre sur le serment, comme si cela m'avait regardé. Je ne me trompais pas. Elle tenait avec ceux qui nous avaient réduits à la misère. Elle me prédit, ce même soir, la damnation éternelle, parce que je ne voulais pas reconnaître que l'Assemblée nationale était un tas de juifs et d'hérétiques, réunis pour renverser la religion de notre Seigneur. Elle m'accabla de reproches, mais je ne lui répondis pas. Depuis longtemps, je me soumettais à ma mère, même quand elle se fâchait injustement. Le père, lui, n'osait pas élever la voix, et je le plaignais de tout mon cœur. Ces choses traînèrent ainsi 3 ou 4 jours. L'Assemblée nationale avait décrété que le serment des évêques, des 6 devants archevêques et des curés, d'être fidèles à la nation, à la loi et au roi, de veiller avec soin sur les fidèles de leur district ou de leur paroisse, et de maintenir de tout leur pouvoir la Constitution. Serait prêté dans la 8e de la publication du décret, un jour de dimanche après la messe. Savoir, par les évêques, les 6 devants archevêques, les vicaires, les supérieurs et directeurs des séminaires dans l'église épiscopale, et par les curés, leurs vicaires et tout autre ecclésiastique dans l'église de leur paroisse, en présence du conseil général de la commune et des fidèles. Qu'ils déclareraient 2 jours à l'avance à la municipalité de leur district leur intention de prêter ce serment, et que ceux qui ne l'auraient pas prêté dans les délais déterminés seraient réputés avoir renoncé à leur office, et qu'on les remplacerait par les élections, selon la nouvelle constitution décrétée le 12 juillet. On attendait donc le dimanche pour voir ceux des curés qui prêteraient le serment. Et jusque-là, les moines cabalaient, tous les ordres et congrégations abolies reparaissaient, la confusion grandissait. Mais en même temps, comme on comprenait très bien que les évêques et les nobles jouaient leur plus grosse partie, et qu'en la gagnant, ils rattraperaient tous leurs biens et privilèges, les bourgeois, les ouvriers, les soldats et les paysans tenaient ensemble. J'entends ceux qui se faisaient honneur et gloire d'obéir aux lois de leur pays et qui mettaient la France au-dessus de tout en même temps que la justice et la liberté. Maître Jean m'avait dit que nous irions ensemble voir à Lutzelbourg son ami Christophe qui, jusqu'alors, avait été du même avis que nous sur les moines fainéants. Comme le bruit courait que pas un curé du pays ne lèverait la main, nous avions du doute sur ce qu'il ferait. Mais cet homme de grand bon sens et de bon cœur voyait les choses simplement. Son devoir ne l'embarrassait jamais, et le jeudi soir, 3 janvier 1791, pendant que nous étions en train de forger et qu'il tombait beaucoup de neige, tout à coup, monsieur le curé Christophe, avec son grand parapluie, son tricorne et sa vieille soutane, se pencha dans notre petite porte en s'écriant. Hey, bonjour Jean! Quel temps de neige! Si cela continue, nous en aurons 2 pieds demain. Hey, c'est Christophe! Dit maître Jean, en déposant le marteau. Entre donc à l'auberge. Non, la nuit arrive. Je viens de faire ma déclaration en ville, et je n'ai pas voulu passer sans te prévenir que le serment sera pour dimanche après la messe. Si vous pouvez venir, Michel et toi, ça me fera plaisir. « Alors, tu prêtes serment ?»« Oui, dimanche prochain, mais la vieille Stephen est là qui m'attend. Nous recoserons de ça. » Maître Jean et lui sortirent alors, et je me retournai du côté de Valentin dont la figure s'était allongée d'un coup et qui rêvait, les yeux tout ronds et la bouche ouverte comme un être abasourdi. Moi, j'étais content. Je regardais tout réjoui monsieur le curé, la vieille Stephen et maître Jean, dehors, en train de causer, tranquillement, au milieu des gros flocons de neige qui tombaient. Ils se serrèrent la main. Monsieur Christophe, avant de continuer sa route dans la grande rue blanche avec la vieille Stephen, sous son parapluie, me cria de loin. « Tu viendras, Michel, je compte sur toi !» Ensuite, il partit, et maître Jean rentra tout joyeux. « Qui donc faisait courir le bruit que les curés refuseraient le serment ? » s'écria-t-il. J'étais bien sûr, moi, que les hommes de bon sens, qui ne manquent pas encore en France, Dieu merci, seraient d'accord avec nous, et non pas avec les imbéciles obstinés dans leurs vieilles idées de couvent, d'abbaye, de droit du seigneur, de grandeur, des nobles et de bassesse du peuple. Comme si nous ne descendions pas tous du père Adam, et comme si nous n'étions pas tous nobles. Maître Jean, quand il était joyeux, ne ménageait plus rien. Il allait jusqu'à traiter ceux qui n'avaient pas les mêmes idées que lui de mauvais gueux et de canailles. Cela me faisait beaucoup de peine pour notre vieux compagnon, qui ne répondait pas et devenait sombre des journées entières. Je sentais que cela ne pouvait pas durer, que Maître Jean se mettait dans son tort, et que Valentin, qui ne manquait pas de courage, pourrait un jour perdre patience et lui répondre solidement. Par bonheur, ce jour-là, Nicole vint un temps nous appeler pour souper. Chacun remit sa veste et l'on se sépara comme à l'ordinaire, sans accident. Le lendemain, on sut déjà que M. le curé Hotte de Falsbourg et son vicaire, M. Himmel, n'avaient pas fait leur déclaration à la municipalité, mais l'aumônier du régiment de l'affaire, M. Joseph Hector, avait fait la sienne. On parlait beaucoup de cela. C'était la grande affaire en ce temps. Et le dimanche venu, Maître Jean et moi, Létumier, Cognard, sans parler d'un assez grand nombre d'autres patriotes de la ville et des baraques, nous descendîmes à Lutzelbourg. La neige avait cessé de tomber. La petite église blanche était pleine de gens arrivés de la montagne pour assister à la cérémonie. On croyait que plusieurs avaient de mauvaises intentions, mais il fallait bien d'autres excitations pour soulever le peuple contre M. le curé Christophe, que tout le pays aimait et respectait. Et puis son frère materne et quelques autres géants roux de sa famille étaient descendus du Dagsbourg. Ils remplissaient le cœur, et rien qu'à voir leurs longues échines maigres, leurs épaules comme des brancards et leurs longs nez crochus, pendant qu'ils chantaient au lutrin, l'envie vous serait passée de faire du scandale, car avec leurs grosses mains de chiteurs et de bûcherons, ils vous auraient jeté de l'un à l'autre par-dessus la foule sans dérangement, jusqu'à la porte où les coups ne vous auraient pas manqué. Tout se passa donc avec calme. Monsieur le curé dit sa messe, et seulement après l'office, il s'avança jusque sur les marches du chœur en face de l'assistance. Et d'une voix forte que chacun put entendre au loin, il dit en levant la main. « Je jure de veiller avec soin aux fidèles dont la direction m'est confiée. Je jure d'être fidèle à la nation, à la loi et au roi. Je jure de maintenir de tout mon pouvoir la Constitution française et notamment le décret relatif à la Constitution civile du clergé. » Quelques instants après, la foule sortit. Monsieur le curé Christophe était encore dans sa sacristie. Maître Jean et moi, le grand materne et ses parents, nous restions seuls à l'attendre dans l'église. Dehors, tout était calme. Les gens s'en allaient. Monsieur le curé vint enfin et nous emmena tous au presbytère. Pendant la route, Maître Jean lui dit en riant.
« Eh bien, tout s'est passé dans l'ordre. Les cris des capucins ne servent pas à grand-chose. »
« Le danger viendra peut-être, dit-il, mais pourvu que nous remplissions notre devoir, le reste ne nous regarde pas. » Une fois dans sa petite maison, où la table ronde était mise, il dit le bénédicité. On s'assit et l'on mangea en silence une bonne soupe et un grand plat de choux d'hiver garni de lard avec quelques noix et du fromage pour dessert. La mère de monsieur le curé avait les yeux rouges. Elle servait sans rien dire. Cela nous rendait tristes. Vers la fin du dîner, elle sortit, et M. Christophe nous dit « Voyez, voilà le trouble qui commence. Voilà la désolation. Voilà ce qui se passera bientôt dans toutes les maisons. La pauvre femme pleure. Les capucins ont plus d'autorité sur elle que moi-même. Elle me croit damnée. Et quoi lui dire? Que faire ?»« Bah !» répondit Maître Jean attendri. « Ma femme se désole aussi, mais tout cela changera. » Les gueux seront mis à la porte et le bon sens prendra le dessus partout. » Mais alors, le curé Christophe prononça des paroles qui ne me sont jamais sorties de la mémoire.
« Ce n'est pas aussi facile que tu crois, Jean, dit-il, car nos seigneurs, les évêques nobles, aimeraient mieux voir tout périr que de perdre leurs biens et leurs privilèges. Et c'est pour cela qu'ils nous défendent de prêter serment à cette constitution qui leur enlève ce qu'ils mettaient au-dessus de la religion. Est-ce que la Constitution est contraire à nos saints évangiles? Non, ils le savent bien. Elle est d'accord avec notre foi. Depuis 1700 ans, les droits de l'homme étaient prédits par notre Seigneur. Il avait dit « Aimez-vous les uns les autres, car vous êtes frères ». Il avait dit « Vendez tous vos biens pour me suivre et donnez l'argent aux pauvres ». Mais eux, bien loin de vendre leurs biens, en amassaient toujours de nouveaux. Eux, bien loin de vouloir l'égalité des hommes, ne songeaient qu'à s'attirer de nouveaux honneurs, de nouveaux privilèges et de nouvelles distinctions. Eux, bien loin de vouloir que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel, se complaisaient dans leur orgueil, dans leur avarice et dans l'abaissement de leurs semblables. Cette constitution, d'accord avec l'Évangile, les indigne. Comment pourrait-il souffrir que les curés et les évêques soient nommés par le peuple, qui ne connaît que les vertus et mettrait les derniers pasteurs les plus humbles au-dessus d'eux, comme cela se faisait du temps des saints martyrs? Ils aiment bien mieux être nommés par des pompadours, des Dubarry et d'autres drôlesses pareilles, qui ne demandent que de belles manières, des salutations, des génuflexions, de grands noms et des paroles agréables qu'un pauvre curé de campagne ne peut jamais avoir. C'est de là que nous sont venus les de Rohan, les Dubois et tous ces êtres qui seront l'opprobre éternel de notre religion. Est-ce que le peuple les aurait choisis? Non, il les aurait jetés dehors comme du fumier, car tout honnête homme, en les voyant, se voilait la face. Eh bien, quand la Constitution déclare que ces impudiques ne seront plus rien à l'avenir dans les grâces, que le pauvre peuple fera tout selon ses besoins, ils sentent que leur règne est fini, que leur temps est passé, si cette bonne foi s'affermit. Et si les pauvres curés qu'ils méprisaient tant restent à la tête de leurs troupeaux, s'ils prêchent la paix, l'ordre, la soumission aux lois faites par les députés de la nation, comme c'est leur devoir, cette bonne Constitution s'affermira. Les curés seront forts, honorés et respectés. Ils feront régner l'Évangile. Si des gueux se présentent pour troubler le pays, ils seront là les premiers à se dévouer, à donner l'exemple du courage contre l'esprit du mal. Et la révolution glorieuse annoncée par le Sauveur s'accomplira paisiblement et pour toujours. Voilà ce qu'ils ne veulent pas. Ils veulent le trouble. Ils veulent exciter la guerre entre nous. Et pendant que les frères seront à se battre contre les frères, pendant que tout sera désuni, bouleversé, alors ceux de Koblenz, de Worms et d'ailleurs arriveront à la tête des Prussiens, des Autrichiens et des Russes, nous remettre sous le joug et rétablir leurs privilèges sur les ruines de l'Évangile et les droits de l'homme. C'est tout ce qu'ils veulent. Ils appellent cela de la politique. Mais est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ avait de la politique? Est-ce que, s'il avait eu de la politique, il se serait fait crucifier pour le salut des malheureux? Est-ce que lui, le descendant de David, ne serait pas mis avec les rois contre les peuples? Est-ce qu'il n'aurait pas écouté le démon de l'orgueil, au haut de la montagne, lorsqu'il lui disait « Regarde ce pays, ces villages, ces fleuves et ces montagnes. Tout est à toi si tu t'inclines devant ma face. » Croyez-vous que de Rohan et les autres, à sa place, ne se seraient pas prosternés bien vite, la face contre terre? Mais notre Seigneur n'avait pas de politique. Et moi, pauvre curé de village, c'est lui que j'écoute, c'est lui que je prends pour modèle, et non ces évêques orgueilleux qui vivaient comme des païens. Oui, j'obéirai toujours à l'Évangile, et je ne pactiserai jamais avec l'étranger. Il se tut un instant tout pâle. Son frère, le grand materne de la houppe, lui tendit la main en disant « Tu as bien raison, Christophe. Nous serons toujours avec notre Seigneur Jésus-Christ contre ce cardinal de Rohan. Je l'ai vu. Nous l'avons vu avec sa femme, la femme d'un autre. Quelle abomination !» Et tous les montagnards se signèrent pendant que je frémissais en moi-même et que maître Jean s'écriait « Oui, nous en avons vu des scandales. Si le peuple est encore religieux, ce n'est pas la faute de ces malheureux. Et s'ils pensent qu'après tout cela, leurs commandements seront pour nous des paroles d'évangile, ils se trompent. » Sans doute, dit le curé Christophe, ils ont perdu notre respect. Mais je vous en préviens bientôt. Ils calomnieront les pauvres curés qui se seront soumis aux lois de leur pays en prêtant le serment. Ils les représenteront comme des renégats. Nous aurons beaucoup à souffrir. Mais quand tout m'abandonnerait, père, mère, frère et sœur, et mes amis, et tout le monde, pourvu que ma conscience soit tranquille et que je marche avec mon Dieu, le reste m'est égal. Tout ce que je souhaite, c'est que, avec leur politique de troubles et de guerre civile, ces hommes ne causent pas la perte de notre roi, de notre malheureuse reine et de ceux qui les entourent. Une fois le peuple lâché, le débordement dépasse tout ce qu'on peut se figurer d'avance. Et si beaucoup de sang est répandu, ce sera leur faute, car en défendant aux curés de prêter serment, ils les rendent suspects à la nation, ils les éloignent de leurs troupeaux. Ils habituent les âmes honnêtes à considérer la religion comme l'ennemi la plus redoutable de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, de tous les grands principes chrétiens proclamés par la nouvelle constitution. Dieu sait ce qui peut arriver dans le trouble. Ainsi parla ce brave homme. Et 2 ans après, en 93, lorsque je voyais passer les charrettes de la guillotine pleines de femmes, de vieillards, de prêtres, de bourgeois, d'ouvriers, de paysans, combien de fois je me suis écrié en moi-même. Voilà la politique des évêques et des émigrés qui passent. Le cardinal de Rohan, le comte d'Artois et leurs amis étaient alors de l'autre côté du Rhin, et nos seigneurs, les évêques, expliquaient l'Apocalypse à Constance. Ils regardaient de loin et ne venaient jamais en Vendée et dans le Midi, où les prêtres réfractaires marchaient courageusement à la tête des paysans révoltés. Ils devaient penser que ces hommes sont bêtes de se faire massacrer pour des gaillards de notre espèce. Et c'était vrai, les malheureux paysans de l'Ouest auraient pu mettre sur leur drapeau servitude, ignorant ces misères, car c'était pour défendre ces choses qu'ils se battaient.
2 ou 3 fois, le comte d'Artois fit annoncer qu'il arrivait se mettre à la tête des Vendéens. Il s'approchait sur un vaisseau anglais, mais quand les paysans s'étaient soulevés, que tout brûlait et qu'ils entendaient gronder le canon républicain, ce brave s'en allait bien vite et laissait les pauvres diables se battre tout seuls pour son droit divin. Vous verrez cela plus tard. On n'a jamais rien vu d'aussi lâche au monde. Tout ce qui me reste à vous dire de ce jour, c'est que l'on causa du serment et des affaires de la nation chez M. Christophe, jusque vers 2 heures, qu'alors ceux de la houppe, ayant une longue course à faire, reprirent leurs bâtons pour arriver chez eux avant la nuit, qu'on se serra les mains et que chacun s'en retourna de son côté, pendant que M. Christophe allait dire les vêpres. Il faisait un froid de loup sur la côte. Maître Jean tout joyeux me disait, en allongeant le pas, « Tout a bien marché. Les Capucins ont manqué leur coup. Mes terres de Pickeholz ont monté de prix depuis avant-hier. » Moi, je songeais au discours de M. Christophe. Ce qu'il nous avait dit de la politique des évêques nobles et des émigrés me faisait réfléchir. Je ne voyais pas l'avenir en beau.